Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ces paroles que j'ai déjà plusieurs fois citées du Christ à ses apôtres ont été elles-mêmes reprises à de nombreuses fois par Jean-Paul II pour nous rappeler le primat de la vie intérieure, le primat de l'union au Christ dans notre vie. Alors, j'avais terminé la dernière fois en abordant la question de la purification de l'affectivité, mais pour que nous puissions faire ce travail que nous avons à faire dans notre mission d'évangélisateur, hein, notre mission de témoin, il me semble tout à fait essentiel que nous puissions parier sur cette logique de fécondité. C'est-à-dire que toute croissance dans notre union au Christ porte nécessairement un fruit, même si elle est vécue d'une manière très cachée, que la personne ne peut pas humainement être témoin de cette croissance. Je repense à l'exemple que je vous avais donné du père jésuite, hein, qui finalement avait été l'instrument d'une illumination, hein, d'une personne qui, depuis des années, était enfermée dans une situation extrêmement complexe, on ne voyait pas d'issue, qui avait demandé conseil à de nombreux prêtres particulièrement connus pour leur discernement. Et ce vieux père jésuite qui n'a su dire que le fait qu'il ne voyait pas de solution. Donc il a posé un acte d'humilité. Je ne sais pas si vous voyez le rapport avec Jean 15, 5, mais celui qui demeure en moi, c'est peut-être celui qui demeure dans mon humilité. Celui-là porte beaucoup de fruits. C'est pas le fait que la personne lui ait dit je ne vois pas de réponse à la question que vous me posez, mais c'est le fait que ce soit enfoncé dans l'humilité. Après, la manière dont ça s'est exprimé, c'est pas ça la question. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé dans son cœur et qui a produit un fruit dans le cœur de l'autre. C'est ça que j'appelle une logique de fécondité. Si ce prêtre avait parié sur son action extérieure, sur sa parole, il aurait pu être, je dirais, très découragé de cette rencontre. Voyez? Mais même dans une situation où nous resterions sans rien dire, sans pouvoir rien dire, parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'on pourrait dire à la personne, qu'elle nous déverse sa colère ou son désespoir, si nous nous demeurons dans le Christ, plutôt si nous nous enfonçons dans le Christ, il y a un fruit. Vous voyez, c'est ça, croire au primat de la vie intérieure, au primat de l'union au Christ, au primat de la grâce. Je dirais, pour reprendre une expression du Concile Vatican II, croire en la charité. En définitive, c'est la charité qui nous unit au Christ. Croire en la charité en tant qu'elle nous unit au Christ, en tant qu'elle est communion au Christ. Puisque je vous l'ai déjà dit, hein, quand Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits », c'est juste après qu'il dit « Demeurez dans mon amour, demeurez en moi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Mon commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc on pourrait dire aussi, dans le sens du primat de la charité, mais primat d'une charité qui est communion à la charité du Christ. Communion au cœur du Christ. Pas primat d'une sorte de pitié humaine ou d'affectivité comme ça qui serait émue par ce que dit l'autre, par sa détresse, et à ce moment-là, on voudrait le consoler, on voudrait prendre du temps avec lui, parce qu'on dit c'est important qu'on l'écoute et tout ça, mais on peut rester très bien à un niveau humain. Dans cette, je dirais, sollicitude pour l'autre. Ce bon père jésuite, il n'a pas dit, écoutez, restez, enfin, je vais rester auprès de vous, vous êtes désespéré, mais écoutez, voilà. Il ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui pouvait la consoler, il a juste dit qu'il ne pouvait rien. Vous voyez, c'est un autre niveau de profondeur. Dans lequel on n'a pas peur de rester vraiment dans une impuissance au niveau des paroles ou au niveau des gestes qui seraient censés exprimer l'amour. En fait, quand l'amour est divin, il passe à travers des canaux qui nous échappent à nous-mêmes. Je vous citerai la manière dont j'ai été édifié par Jean-Paul II. Ce qui m'a le plus touché, je garde ça dans mon cœur, c'est j'ai assisté à la manière dont il se préparait juste avant la messe en mettant ce tissu que l'on met autour du cou qui s'appelle la mycte, hein, que l'on n'utilise plus tellement maintenant. Et je l'ai vu mettre son amygde, donc par un mouvement dans lequel il jetait, entre guillemets, par derrière lui, et puis le nouait autour de son cou. C'est ça qui m'a le plus touché de toute la célébration. Il faut dire pourquoi. Il y avait une justesse, une douceur, une attention. Il était très présent à ce qu'il faisait. J'ai admiré la manière dont il a mis son amygde. Ça m'a touché. Il dit, il fait pas ça comme une corvée à faire. Dans sa manière d'agir, mais comment ça se calcule pas. Et il était vraiment conscient que ça représentait une manière de se revêtir du Christ. C'est après coup, je dis ça, sur le moment il m'est rien venu, j'ai simplement été touché par ce geste. Vous voyez, on est touché par des choses qui, au-delà du raisonnement, parlent à notre cœur. Et sont la manière dont la charité qui anime l'autre nous rejoint et nous édifie. Et donc vous voyez à quel point il est vain de passer son temps à se dire mais qu'est-ce que je pourrais lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui, au lieu de rester d'abord dans cet exercice de charité qui consiste, selon essayer de le voir, qui consiste essentiellement à se rapprocher du cœur du Christ en fait. Par rapport à ça, vous voyez, on peut se rappeler aussi les avertissements de Jésus par rapport à la vraie fécondité de nos actions, notamment de nos paroles. Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon, je traduis littéralement, nous sommes en Luc 8, 6, 44, 45. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit le bon. Et celui qui est mauvais, du mauvais, le mauvais. car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Je vérifie simplement. Oui, c'est ça. Le mauvais du mauvais produit le mauvais. L'homme mauvais de son mauvais cœur produit du mauvais. Le produit, c'est. En fait, c'est le fruit qu'il porte. Donc, reprenons l'exemple du Père Jésuite. Lui, de son cœur humble, qui est bon par l'humilité, a produit le bon, mais chacun produit selon ce qu'il est. C'est-à-dire, si je suis dans l'humilité du Christ, uni au Christ dans l'humilité, je vais produire un fruit de quoi dans le cœur de l'autre ? Un fruit d'humilité. Si je suis dans la volonté de puissance, je risque de contaminer par mes paroles, à travers mes paroles, d'entraîner l'autre dans un esprit d'orgueil, de volonté de puissance. Je prends un exemple concret là, ici, au niveau d'un thérapeute, ou même au niveau de ce qui serait un directeur spirituel. Si j'ai comme directeur spirituel quelqu'un qui est très volontariste, qui compte sur ce qu'il peut faire, il va donner des conseils à la personne, oui, disant voilà, ce serait bien de faire ça, on pourrait faire ça, mais les conseils peuvent être bons en eux-mêmes, mais au-delà des conseils, il y a un esprit de « il faut ». Vous voyez ? Un esprit qui est le sien, un esprit volontariste. Et la personne, peut-être qu'en eux-mêmes, les conseils, encore une fois, sont bons, mais la personne, elle va surtout être entraînée dans un esprit volontariste. C'est ça, en fait, le fruit. Ça n'a pas été le fait que la personne peut se dire « Ah oui, il m'a donné un bon conseil. » Oui, mais si l'esprit n'est pas bon, le bon conseil, en fait, ça ne vire à rien. Alors, la personne, on peut, comme ça, vous voyez, être très, très compétent à donner des conseils, mais le fruit de nos paroles, en réalité, il est de la même qualité que ce qui se passe au plus intime de notre cœur. C'est ça dont il faut arriver à se convaincre. L'efficacité réelle et profonde de nos paroles dépend radicalement de ce qui se vit au plus intime de notre cœur. Alors, ça ne sert à rien de faire du discours fabriqué. Ah oui, en dehors du fait que ça peut être en réalité une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire on dit des choses belles, mais notre cœur, lui, il est plein de rapines, comme reproche Jésus aux pharisiens. Vous présentez des apparences de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de rapines. C'est une loi dont on a besoin de se convaincre chaque jour, parce qu'on a une tendance toujours à remettre notre confiance en l'action concrète elle-même, en se disant « mais quand même, si je lui dis ça, il va quand même bien comprendre ça. Hein? Et s'il comprend ça, il va enfin changer ça. Et comme ça, ça ira mieux. » Voilà, c'est clair, c'est net, on maîtrise la chose, je vais lui expliquer ça, il va comprendre ça, et il va changer ça, et je l'aurai aidé. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vie. spirituelle. Voyez, si c'est un cours de mathématiques, bon, d'accord. Je lui explique tel théorème, après tel autre, et à partir de là, il aura compris la démonstration. D'accord. Mais pour ce qui est des choses qui concernent le salut des personnes, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Parce que l'essentiel se joue à un autre niveau, de mon cœur au cœur de l'autre. C'est valable pour toutes les communications, si ce n'est qu'il y a des communications qui, en elles-mêmes, sont purement techniques. C'est-à-dire, je transmets l'information des horaires de la gare de Bois-Colombes à quelqu'un. Bon, même si mon cœur est rempli de rapines, malgré tout, il a les horaires de la gare de Bois-Colombes. Et on peut dire qu'il y a une efficacité à l'action. Vous voyez, maintenant, tout ce qui touche au vrai bien de l'homme, oui, relève de ça. Et alors, notamment... Des professions, je pense, pour ce qui est de professions, je m'en rends de plus en plus compte, des professions qui sont à la lisière du salut de l'âme, si j'ai pu dire, comme celle de psychologue, qui touche quand même au bien de l'âme. Et, on pourrait se poser la question par rapport à des médecins qui, normalement, sont censés s'occuper que du corps, mais qui touche au corps, touche à l'âme, et qui touche à l'âme, touche au corps. Et donc, de fait, on s'aperçoit, enfin, je crois pouvoir dire, ayant été pendant 10 ans immergé dans ce milieu-là, que des médecins qui ne sont pas animés par la charité du Christ, eh bien, il y a une attention à l'autre, une écoute de l'autre qu'ils n'ont plus, une attention du cœur. Et les fruits, déjà, vous voyez, le médecin qui n'a pas d'espérance dans son cœur par rapport à la mort, la manière dont il va donner son diagnostic par rapport à quelqu'un qui a un cancer du foie et qui n'a aucune chance humainement de s'en sortir, ben, il pourra toujours mettre des gants, pourra toujours essayer d'être... comment dire, de suivre le protocole, je dirais, de l'équipe de psychologues de l'hôpital qui donne toutes sortes de bons conseils quant à la manière de dire les choses. Si lui-même n'a pas d'espérance dans le cœur, il ne risque pas de porter un fruit d'espérance dans le cœur des patients. Hein. Si au fond de lui-même, il est profondément désespéré par rapport à elle, et à la mort et à la souffrance elle-même dont il ne voit aucun sens... même si son langage est bien huilé parce qu'il a reçu une formation pour, il ne pourra pas faire du bien aux âmes. Hein. On est d'accord ? Ah oui. Et aussi au niveau, je dirais de l'exercice de ce qui relève proprement, spécifiquement de son métier, c'est-à-dire le soin du corps, le fait... qui ne puisse pas vivre l'intelligence du cœur qui suppose la charité divine, je pense l'intelligence du cœur profond, je ne dis pas simplement une sorte d'empathie, hein, mais l'intelligence du cœur qui est donnée comme des fruits mûrs de la charité en nous, hein, qui correspond au don de la sagesse en fait. Hein, mais s'il n'a pas ça, donc il y a une attention à l'autre qui manque. Et au niveau du diagnostic, de fait, tant que j'ai pu en juger, il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas bien vues. On se réfugie derrière des tonnes d'examens, hein, mais vous voyez, le bon médecin qui, en voyant la personne, en touchant, en faisant son... était capable de donner comme une sorte de diagnostic, en premier truc, un peu intuitif, en disant, écoutez... il y a quelque chose qui ne va pas là, il faudrait faire telle chose, ben ça on trouve de moins en moins. Le bon généraliste, vous voyez, qui reçoit l'autre, qui a une vision globale un peu, qui attentif aux moindres petits détails comme ça, qui va par une sorte d'instinct qui peut être tout à fait guidé par l'Esprit Saint quand il y a vraiment une charité divine, donner le truc juste, ben ça devient très très rare. Et les conséquences sont assez incalculables, tant au niveau du vrai bien des personnes que du trou de la sécurité sociale. Oui, parce que du fait qu'il n'y a pas un premier diagnostic, un temps soit peu éclairé, si vous voulez, on multiplie les examens. Hein? On multiplie les examens, avec d'ailleurs quelquefois des lectures un peu rapides. Et bon, enfin, je ne vais pas vous raconter hein, tout ce que j'ai pu observer, mais vous voyez qu'on ne peut pas entièrement... Dès qu'on touche à l'homme, au bien de l'homme, corporel, psychique, spirituel, il y a comme une unité de la personne qui fait que là, de fait, le fait que la charité soit refroidie, hein, à cause de l'iniquité croissante, comme dit Jésus, hein, la charité se refroidira à cause de l'iniquité croissante, le fait qu'actuellement la charité se soit refroidie dans notre société, a bien plus de conséquences que ce que l'on peut calculer comme ça, dans un premier regard et dans un premier raisonnement humain. Qui est un regard superficiel qui met naïvement sa foi d'abord en la technique. Donc, vous voyez, pour redire les choses autrement par rapport à cette logique de fécondité, ce que je sème dans mon propre cœur, je le récolte dans le cœur de l'autre. Si, en écoutant la personne qui m'agresse un peu, qui commence à critiquer l'Église, je me laisse aller à un fond de colère tout en affichant un doux sourire, eh bien, ça va pas calmer le jeu, hein. Non. Ce que j'aurais semé dans mon cœur, je vais le récolter dans le cœur de l'autre qui va me faire une crise à un moment ou un autre, alors que moi, je lui ai dit que des paroles gentilles. Hein? Hypocrite, vous insensé, dit Jésus, vous purifiez l'extérieur alors que l'intérieur est pas pur. Vous voyez pourquoi je suis tellement réservé par rapport à tout ce qui est technique. Vous voyez, parce que dans la mesure où ça nous favoriserait cette confiance mauvaise en notre pouvoir propre, qui nous poussant à nous appuyer sur autre chose que la grâce. Et que la profondeur de notre union au Christ. Et ce que je vous dis là, ça traverse toutes les exhortations, tous les documents du magistère. J'ai avec moi, vous voyez, l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, publiée le 16 octobre 1979 sur la catéchèse. C'est la fin du premier chapitre. C'est seulement dans une profonde communion avec lui, le Christ, que les catéchistes trouveront lumière et force pour un renouveau authentique et souhaitable de la catéchèse. Conclusion de la première partie. L'Église revient continuellement sur cette vérité fondamentale. En dehors du Christ, on ne peut rien faire. Le problème, c'est qu'on en a besoin de s'en convaincre chaque jour depuis qu'on a été atteint par le péché originel. J'ai dit, si on fait un travail d'humilité pendant que l'autre, par exemple, nous agresse, et qu'on se dit au fond, il a peut-être pas entièrement raison, il a peut-être pas entièrement tort. Vous voyez, c'est plus fort que moi le réflexe. Au lieu de se chercher à justifier, on dit au fond, bon, c'est vrai que je suis pas si témoin que ça, ou que bon, enfin, voilà, il a des raisons de penser que les cathos sont sont pas dans une vraie charité, qui s'occupent pas assez des pauvres, ceci et cela, ben, ils font. Moi-même, est-ce que je suis vraiment proche des pauvres? Bon. Ouais. Si je fais ce travail-là, donc en pariant sur le cœur, est-ce que la personne va nécessairement être touchée quand je vais lui répondre dans cet esprit d'humilité? Ben, il faut avoir le courage de dire non, parce que sinon on serait plus puissant que Jésus. Jésus a toujours parlé dans la plus extrême humilité, notamment aux pharisiens qui refusaient de croire en lui. Et qu'est-ce qu'il leur dit, notamment en Jean 8, 37, « Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et de Dieu entend les paroles de Dieu, si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il leur dit qu'ils sont fils du diable. Donc il faut accepter aussi que tout en s'exerçant d'abord à revêtir les sentiments du Christ, à se rapprocher de son cœur, nous puissions nous heurter à une opposition plus que viscérale. Une opposition inspirée par celui qui n'a plus de cœur, comme disait Sainte Thérèse d'Avila à propos de Satan. Et il peut y avoir des personnes que nous rencontrons, donc, qui sont vraiment sous son influence. Et à ce moment-là, si nous sommes dans l'humilité vraiment et la douceur du cœur du Christ, bien au contraire, on provoque une réaction d'opposition encore plus grande. Je pense ici, vous voyez, à la réaction des bourreaux du père Maximilien Kolb quand ils sont venus dans le sort de bunker dans lequel il était, survivant d'une dizaine de prisonniers condamnés à mourir de faim et de soif. Paraît-il, se tenait debout, n'avait plus qu'un poumon, il avait assisté les autres jusqu'à la mort, et les tortionnaires n'en pouvaient plus d'attendre qu'il meure, et donc ils sont venus le piquer. Et il se serait mis à crier en croisant son regard, ne nous regarde pas comme ça, ne nous regarde pas comme ça. Ne supportons pas le regard de miséricorde. Mais effectivement, ça c'est décrit de fils du diable. Pas dire autre chose. Et ça me rappelle un conseil d'un exorcisme disant quand il faisait une prière d'exorcisme sur des gens possédés, influencés par le malin. Pour chasser le malin, il était très important de regarder la personne avec beaucoup de charité, parce que pour le malin, c'était comme du feu qui le faisait fuir. Voilà, c'est pour dire que le fruit, ça peut être ça. Révéler l'opposition radicale de quelqu'un qui est dans un mauvais esprit, qui peut-être s'approche de nous avec des airs conciliants et tout ça. Et à ce moment-là, bon, il faut accepter de ne pas être plus fort que le Christ, hein, qui lui-même a buté devant cette opposition radicale. C'est pas dit que nous puissions sauver tout le monde, même si nous allons jusqu'au bout de l'appel à nous unir au cœur de Jésus. Cette union au Christ donc se réalise essentiellement par la charité elle-même. Seule la charité peut rendre féconde notre action. Seule cette charité qui est dans le cœur du Christ, et que le Christ a, donc celle que le Christ a vécue pour nous dans son cœur humain. Pourquoi seule cette charité peut assurer la fécondité de nos paroles? Bien, c'est parce que c'est la fécondité de la croix. C'est-à-dire, c'est cette charité qui fait dire à Jésus, donc quand il dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous », hein, il leur dit, donc, si vous demeurez dans mon amour, si vous gardez mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, littéralement de déposer son âme pour ceux qu'on aime. Donc cet amour, cette charité, c'est l'amour crucifié. En fait, il n'y a pas d'autre fécondité, parce qu'il n'y a pas d'autre source de fécondité véritable, c'est-à-dire d'un fruit de salut, que la croix. Donc, cette charité qui peut remporter la victoire, hein, ça ne peut être que celle qui se conforme à l'amour avec lequel Jésus nous a aimés dans sa passion. C'est-à-dire, en définitive, un amour qui accepte de porter le poids du péché, le poids des résistances, le poids des complicités au mal, le poids de l'endurcissement, de l'aveuglement, le poids de la révolte, de la violence, de l'avidité, du cynisme, de l'égocentrisme, du mensonge. Bref, le poids de tout ce qui nous blesse dans nos relations aux autres. Et en étant animé par cette certitude qu'il n'y a que la charité du Christ, du cœur du Christ, qui soit à une force de transformation en profondeur de l'homme, des hommes et du monde par le fait même, puisqu'il n'y a que cette charité qui puisse vaincre le mal. Thérèse dit « Ses armes invincibles, c'est la prière et le sacrifice. » En réalité, il n'y a pas d'autre arme absolue que de rentrer dans cette charité qui est essentiellement offrande de soi dans l'acceptation du poids à porter pour l'autre, à cause de l'autre et pour l'autre. Et évidemment, c'est là que nous touchons les limites de notre pauvre cœur humain. Je vais revenir là-dessus, mais je pensais, vous voyez, cette charité qui porte, je repensais à une scène télévisée, mais je n'ai pas vu moi-même, où il y avait sur le même plateau Mère Teresa et celui qui a écrit Le hasard et la nécessité, c'est-à-dire Jacques Monod, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Jacques Monod aurait eu tout un long discours pour montrer que finalement, tout pouvait s'expliquer sans Dieu. Et donc, il avait à 2-3 mètres de lui Mère Teresa, qui restait silencieuse pendant toute la grande partie de l'émission. Jacques Monod étant là, sûr de sa science. Alors là, j'aurais bien aimé pouvoir entendre moi-même, mais l'écho qui m'a été donné par une personne qui l'a vu, le père Pascalide, qui m'a raconté qu'à un moment, Mère Teresa a dit simplement, écoutez, moi j'ai pas votre science, je peux pas répondre à ce que vous dites là, mais Je sais une chose, c'est que Jésus vous aime. Puis elle s'est tue. Et Jacques Monod aurait rappelé cette parole quelques jours ou la veille de sa mort. Il est mort dans une clinique où il y avait des religieuses. Et il aurait rappelé ça. On convertit pas les personnes en répondant à toutes leurs questions, en voulant débattre, se battre et débattre. On convertit les gens en les aimant, parce que si cette parole a tant touché le cœur de Jacques Monod, d'abord c'est qu'il n'était pas si endurci que ça, hein, simplement victime de, si je puis dire, de l'orgueil ambiant intellectuel, intellectualiste du milieu scientifique, hein, il s'est laissé un peu prendre par ça, bon, mais c'est pas dit que c'était un homme de mauvaise volonté, et si cette parole a eu tant d'impact dans son cœur, c'est parce que Mère Teresa, pendant tout le temps qu'il a dû parler, eh bien, elle a dû tout simplement l'aimer de plus en plus. D'autant plus qu'il a dû lui faire souffrir son cœur de croyante, d'entendre finalement des propos qui, à la limite du blasphème. C'est ça la charité qu'il porte. Après, peut-être qu'un regard aurait suffi. Mais elle lui a dit simplement ce qu'elle avait dans le cœur, parce qu'elle était animée par cette même charité, donc... Le voyant comme Jésus le voyait, l'aimant comme Jésus l'aimait, eh bien, elle a pu lui dire cette parole, qui était une parole qui venait directement de son cœur, et qui a rejoint directement le cœur de l'autre. C'est ça la nouvelle évangélisation, vous voyez, c'est pas nécessairement de s'armer de tout un savoir pour pouvoir répondre aux questions des autres. Les autres, ils ont surtout besoin de voir en nous... Le visage du Christ miséricordieux n'a pas nécessairement besoin d'entendre tout un alignement d'arguments censés les convaincre. Et encore moins de subir une sorte de lavage de cerveau quand on est en position de faiblesse et qu'on nous explique que c'est bientôt la fin du monde et qu'il va falloir tout de suite se sauver grâce à la recette miraculeuse qui nous est proposée. Je repense, vous voyez, en pensant à cette prima d'une charité qui porte, la charité qui porte et qui sauve, la charité qui dans la rencontre avec le mal, avec le péché, répond donc par un don plus grand encore, une offrande plus grande encore. C'est au fond, c'est ça la miséricorde, l'amour miséricordieux. Et je vous cite ici les paroles de Benoît XVI du Regina Coeli du 30 mars 2008, donc où il a rappelé le décès de Jean-Paul II. Il y a 3 ans, c'est là, il dit, la miséricorde est en réalité le noyau central du message évangélique. C'est le nom même de Dieu, le visage par lequel il s'est révélé. Dans l'Ancienne Alliance, c'est pleinement Jésus-Christ. Tout ce que l'Église dit et fait manifeste la miséricorde de Dieu. Manifeste que la miséricorde de Dieu nourrit pour les hommes et donc pour nous. Oui, tout ce que l'Église dit et fait manifeste la miséricorde. Tout ce que l'Église dit et fait pour manifester la miséricorde. Hein? Parce que c'est ça, c'est cette manifester et puis laisser agir cet amour miséricordieux. Non seulement le révéler, mais le laisser se vivre en nous avec le pouvoir qu'il a de purifier, de libérer les cœurs du péché. Et alors, il cite dans ce Regina Celi, il cite la parole que Jean-Paul II avait prononcée à Cracovie, dans le grand sanctuaire de la Divine Miséricorde, en disant que c'était le noyau central vraiment de son pontificat. Et Jean-Paul II avait dit « Il n'y a aucune source d'espérance pour les êtres humains en dehors de la miséricorde de Dieu. » Et il conclut son message, renvoie donc au visage du Christ, révélation suprême de la miséricorde de Dieu. Vivre la miséricorde, l'amour miséricordieux, la charité qui accepte de porter, la vivre jusqu'au bout dans nos relations avec les autres, c'est cela le grand défi de la nouvelle évangélisation. J'ai envie de dire parce que l'humanité est tombée trop bas et on ne peut la rejoindre et l'aider à se le relever que si on lui présente le visage du Christ miséricordieux. Non seulement le visage, mais le cœur. Et qu'on laisse le Christ se servir de nous pour continuer à aimer, pour continuer à tendre la main, pour continuer à éclairer, pour continuer à purifier. Les âmes qui sont obscurcies et je dirais entachées par une innombrable somme de péchés dans laquelle le monde nous fait tomber quotidiennement. Si vous voulez, dans notre dialogue avec les autres, en vue donc de les évangéliser, mais pas seulement de les évangéliser, mais de les sanctifier, parce que justement on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Hein ? Il s'agit de laisser passer l'œuvre de la rédemption, hein, qui est à la fois une œuvre d'amour, d'un amour qui sauve, et une œuvre de vérité qui sauve. Mais on ne peut pas dire simplement, moi, mon charisme, c'est d'annoncer l'Évangile, il y en a d'autres qui sont faits pour exercer la miséricorde. Non. Oui. Moi, je suis plutôt du côté de l'évangélisation, voilà, même un peu direct comme ça. Moi, j'aime bien prêcher, j'aime bien y aller comme ça. Mais bon, il y en a d'autres qui ont de la compassion pour les pauvres, on sait bien, mais c'est autre chose. Non. Ça, c'est vraiment du petit calcul humain. Et pensez... Pensez à la scène du lavement des pieds. Ici, j'ai devant moi l'homélie de Benoît XVI de cette année, le Jeudi Saint. C'était le 20 avril. Donc, 20 avril 2008. Quand nous sommes dans un dialogue avec quelqu'un qui est comme chacun de nous, hein, et a une part d'aveuglement et a du mal à mettre toute sa foi au Christ, du mal à s'ouvrir à Dieu, pensons que nous sommes comme le Christ au pied de ses apôtres, hein, dans le lavement. Alors regardez Benoît XVI, hein, commente cet acte symbolique. Il ils nous rend purs par sa parole et son amour. Voyez les deux, par le don de soi. Alors ici, d'abord, déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Il nous lave par sa parole. Je me souviens d'une personne qui avait témoigné, enfin, en sortant de la confession, elle avait dit « J'ai pris une douche. » La douche, ça lave. On se sent lavé. Il y a eu un dialogue. On a reçu l'absolution. Mais dans le dialogue, on sent, comme prêtre, on sent quelquefois que réellement la parole a une force purificatrice. Pas simplement, vous voyez, éclairante. Et déjà, vous êtes pur grâce à la parole que vous avez adressée. Au-delà de ce que la personne peut comprendre intellectuellement, il y a un travail de purification qui se fait. Oui, si nous, alors il commente, oui, si nous accueillons les paroles de Jésus dans une attitude de méditation, de prière, de foi, elles développent en nous la force purificatrice. Alors j'aime bien le petit développement qu'il fait juste après. Jour après jour, nous sommes comme recouverts de salissures diverses, de paroles vides, de préjugés, d'une sagesse réduite et altérée, genre grand et vieux principe de famille, vous voyez. Sagesse trop humaine, des idées comme ça, qui ont l'air sages, mais qui ne sont pas si profondes que ça. Des paroles vides, ça, c'est tous les jours. Hein. Une multitude de fausses vérités. Pas mal l'expression. Des vérités qui ont perdu leur vrai sens, voilà, des trucs qu'on répète, mais qui ne sont plus habités. Multitude de fausses vérités ou de mensonges s'infiltrent sans cesse dans notre être intérieur. Tout cela blesse et contamine notre âme. Tout cela menace de nous rendre incapables de voir la vérité et le bien. Si nous accueillons les paroles de Jésus avec un cœur attentif, elles se révèlent de véritables bains, des purifications de l'âme, de l'homme intérieur. C'est vrai que quand on médite le matin l'Évangile, en profondeur, qu'on se laisse toucher par la parole, même si 5 minutes après on serait incapable de donner une idée distincte en disant qu'est-ce qu'on a retenu de cette méditation, on ne pourrait peut-être pas expliquer ce qu'on a compris, mais le fait d'avoir laissé cette parole descendre dans notre cœur a eu un effet purificateur. Mais la méditation de Benoît XVI ne s'arrête pas là, puisqu'il dit que, au début, il dit que Jésus nous purifie, hein, par sa parole. Il lave nos pieds sales, hein, et il nous rend purs par sa parole et son amour. C'est-à-dire, il fait plus que simplement nous communiquer une lumière qui est tellement, je dirais, brûlante, un feu. Le feu, on pourrait dire, c'est le feu purificateur de sa parole. Une parole de feu. Elle est d'une telle vérité qu'elle ne laisse, je dirais, aucune place au mensonge, à l'hypocrisie, aux fausses vérités. Elle balaye tout ça. La puissance de la vérité avec un grand V, mais Benoît XVI précise que Jésus n'a pas seulement parlé, il ne nous a pas laissé que des mots, il s'est offert. Il nous lave par la puissance sacrée de son sang, autrement dit par le don de soi jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Je ne développe pas plus, voyez, mais ici on sent bien qu'il n'y a qu'un seul lavement. Et que si la parole est purificatrice, si de fait elle arrive à convertir en profondeur les cœurs, c'est parce qu'elle est porteuse, elle est une des expressions d'une charité qui va jusqu'à l'offrande de soi. En définitive, ce qui purifie ultimement, c'est le sang de l'agneau. Et donc, il n'y a pas de véritable évangélisation, qui amène à une vraie conversion, c'est-à-dire à une vraie ouverture du cœur à la vérité profonde du Christ et à son amour, sans la croix. Il y a toujours un prix à payer pour que quelqu'un soit vraiment sauvé. On pourrait tenter de se convaincre du contraire en se disant « Oui, mais en suivant telle ou telle méthode, on arrive à ce que des gens reviennent à l'Église. » Mais moi, je réponds simplement que le problème de fond, c'est pas que les gens reviennent à l'Église, c'est qu'ils soient sauvés. Et excusez-moi de vous décevoir, mais on peut aller à la messe tous les dimanches et se damner. C'est pas parce qu'on rentre à nouveau à l'intérieur des limites visibles de l'Église qu'on est sauvé, hein. S'il n'y a pas de vraie conversion du cœur. Et je dirais là, essayons d'élargir un peu l'horizon de notre sollicitude en pensant que nous ne sommes pas là pour faire rentrer le plus de gens dans l'Église, nous sommes là pour que le monde soit sauvé. La quantité d'âmes qui ont été sauvées par l'offrande des saints sans jamais pour autant rentrer dans l'Église. Simplement, ils étaient dans les pays, il n'y avait pas d'église. Pas possibilité de rentrer dedans. Et puis que la question, regardez le rayonnement de la petite Thérèse. Elle est aimée, elle touche des gens qui sont musulmans, juifs. Le rayonnement de la Sainte Vierge, un musulman qui m'a dit en pleurant, mais elle est aussi notre mère. Pas rentré dans l'Église, mais il est touché par le cœur immaculé de Marie, et son cœur est attendri et peut-être plus proche de Dieu que le bon catholique tout rempli de son catholicisme, si je puis dire, et qui, parce qu'il va à la messe tous les dimanches, pense qu'il est quand même un peu mieux que la moyenne nationale. Mais non, ça prouve rien, hein. Bon. Et donc, ayons la, je dirais, une sainte inquiétude, comme avait dit le cardinal Ratzinger quelques jours avant d'être élu pape, une sainte inquiétude pour le salut des âmes, et pas simplement une recherche de ramener, entre guillemets, les brebis perdues dans le bercail, parce qu'on aime bien voir que l'Église, quand même, il y a du monde et ça fonctionne, quoi. L'Église, elle ne vit pas pour elle-même, c'est pas une grosse machine qui cherche à avoir le plus d'adhérents. C'est le sel de la terre. Même si elle se réduit à un petit troupeau, du moment qu'elle communie à la passion de Jésus, eh bien, le monde peut être sauvé. Que ça qui doit nous inquiéter, que par ailleurs, eh bien, on tâche de réconcilier les gens avec l'Église en disant on n'est pas si moche que ça. Écoutez, venez voir, venez à une soirée, allez une fois à une messe, vous verrez, c'est quand même pas si ennuyeux que ça. Mais évidemment, on cherche à ce que les gens puissent revenir dans l'Église. Mais ça ne doit pas être notre préoccupation première. Il faut voir plus loin, voir au vrai salut des âmes qui passent par la croix au-delà des frontières visibles d'une entrée ou d'un retour dans l'Église. Regardez Jacques Monod, il a probablement été sauvé par la prière et la charité, je ne dis même pas la parole, mais la prière et la charité de Mère Teresa. Il n'est pas revenu à la messe avant de mourir. Mais il a probablement été sauvé. C'est ça qui fait une différence avec, je dirais, excusez-moi d'aller jusqu'au bout du raisonnement, mais ça, c'est ce qui fait une différence avec la mentalité, l'esprit des évangélistes, des pentecôtistes ou de nos frères protestants qui n'ont pas dans leur conscience, qui ne croient pas en la possibilité d'une participation au mystère de la rédemption. Ils méconnaissent, ils ignorent Marie au pied de la croix. Et donc, ce qu'a vécu la petite Thérèse, ça leur échappe complètement. Ça ne rentre pas dans leur cadre. Donc, pour eux, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est annoncer Jésus, convaincre les gens qui deviennent. Non, c'est pas ça. Regardez Benoît XVI, c'est pas ça qu'il fait. Et parce que si on fait ça, forcément, en oubliant que ce qui sauve en définitive, c'est la croix et notre communion à la croix. Quelqu'un veut me suivre dans ma mission de sauveur, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un veut contribuer à mon œuvre de salut, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, parce que le grain de blé ne peut porter du fruit que s'il meurt. Si nous oublions cette vérité fondamentale qui se situe non pas précisément dans la ligne, je dirais, proprement parler de l'évangélisation, mais plutôt de celle de la sanctification, mais les deux étant inséparables, justement, nous sommes sauvés par la lumière et par l'amour, mais plus encore par l'amour que par la lumière. Ben, si nous oublions mission première qui est de suivre Jésus sur le chemin d'un amour qui sauve, parce que c'est un amour qui porte, eh bien, fatalement, notre zèle pour les âmes va se terminer en prosélytisme. Parce que nous aurons oublié le primat de la charité. Et qu'à ce moment-là, on parle, on cherche à convaincre, on parle. C'est peut-être un peu sévère ce que je dis, mais qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas, comment dire, autrement que par un profond renouveau de la vie intérieure, de la vie contemplative, c'est-à-dire de l'union au Christ, ce n'est pas par d'autres chemins qu'il y a eu des renouveaux du christianisme dans l'histoire du monde. Pensez à cette nouvelle évangélisation qui a été l'évangélisation de notre Europe déjà un peu vieille au moment de la chute de l'Empire romain, donc nouvelle évangélisation qui s'est faite, disons, 5e, 6e siècle, 7e. S'est faite par qui? Par de saints moines, dont nous fêtons aujourd'hui un de ces saints moines, la personne de Saint Boniface, qui venait d'Angleterre. Et qui a évangélisé la Germanie et qui a réorganisé donc l'église franque et qui s'est fait massacrer par des Hollandais. Ce midi, j'ai déjeuné avec un Hollandais qui a précisé que c'est parce qu'il détruisait les chênes sacrés. Il avait détruit les arbres sacrés, ça n'a pas plu. Bon, c'était peut-être une imprudence. Hein. Peut-être pas commencer par ça. Hein. Pour pas provoquer le démon. Enfin, bon, c'était une première qui faisait. Hein, même les saints, des fois. Bon, le Seigneur a permis ça, c'est que c'était le moment pour lui de s'offrir en sacrifice. Mais moi, je vous déconseille de commencer par arracher les chaînes sacrées. Avec en plus tous les problèmes écologiques que ça peut poser. Vous voyez, parce que on ne lutte pas contre le mal à la force du poignet, la force de la hache, même contre des arbres. On lutte contre le mal essentiellement par la profondeur de la charité. Puis ensuite, ensuite, c'est l'extérieur qu'on peut purifier. Bon, ceci dit, c'était l'esprit de l'époque. Hein. voyez, par rapport à ça, à cette purification du cœur de l'autre, qui se fait donc d'abord par la puissance de l'amour que je porte sur lui, du regard d'amour que j'ai sur lui, ou même s'il ne croise pas mon regard, tout simplement par l'amour que j'ai dans mon cœur pour lui, tout se passe d'abord dans l'invisible. Je dirais à ce moment-là, pour reprendre l'expression de Jésus, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil et tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. La poudre qui est dans notre œil, comme la paille qui est dans l'œil de l'autre, c'est ce qui nous empêche de voir. Ce qui nous empêche de voir, ça peut être par exemple notre orgueil, qui est ce qui aveugle le plus. Ça peut être aussi notre convoitise, la cupidité. Et alors, je purifie mon cœur. J'enlève la poudre qui est dans mon cœur. L'œil de mon cœur peut voir clair. Mais si je peux enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui, c'est pas simplement parce que j'y vois clair, c'est parce que ce travail que j'ai fait sur moi-même porte son fruit dans le cœur de l'autre. Donc, de fait, lui-même peut être libéré de la paille qui est dans son œil. Tout ça, c'est dans la même logique de fécondité. Et une fois que l'autre est libéré de la paille qui est dans son œil, eh bien, il voit. Il voit la vérité. Maintenant, imaginons que je néglige d'enlever la poudre qui est dans mon œil. Et je parle avec un peu un esprit de domination, ou vous voyez, en disant mais je vais lui expliquer ça. Bon. Je me souviens une fois en psychiatrie, c'était à l'Hôtel Dieu, je tombais sur quelqu'un qui était un peu dans un adolescent, qui était complètement dans la confusion au niveau nouvel âge, tout ça, et saisi d'un zèle trop humain, j'ai dit, bon, je vais lui expliquer que tout ça c'est, vraiment c'est ridicule tout ce qu'il dit. Alors, je lui ai montré 4x4 en fait. J'étais tellement dans, il faut bien le dire, une volonté de dominer intellectuellement. J'avais tellement plus de connaissances que lui sur la question et tout ça, que l'autre, il s'est braqué complètement. Il s'est senti vraiment agressé, même si je mettais un peu de diplomatie et tout ça. En réalité, j'étais mu par un esprit de domination. Et après coup, je me suis rendu compte que j'avais agi comme un insensé, parce que j'avais pas enlevé la poudre qui était dans mon œil. Alors, j'enlève la poudre qui est dans mon œil pour permettre à l'autre donc d'être libéré de la paille qui est dans le sien. À ce moment-là, il voit lui-même. Donc je reprends. Imaginons que je néglige ce travail-là et que je cherche à lui faire voir ce qu'il est, je pense, qu'il devrait voir. Il dit, mais enfin, tu comprends pas ça? Mais écoute, je t'explique, je te réexplique. Attends, c'est comme ça, tu vois, comme ça. Dieu, c'est le Créateur, tout ça. Alors, ce qui est la création, puis après, t'as Jésus qui est le Fils du Père. C'est clair, tu vois. C'est pas la question. Il a une paille dans son œil qui l'empêche de voir. Donc, il voit pas. Alors, je fais du forcing. Je fais un travail qui je peux pas aboutir parce que c'est à la base qu'il y a un empêchement. Alors on donne des explications. Alors si on a affaire à une personne qui est un peu fragile psychiquement, on va dire, ah oui, ah c'est logique ça, oui, vous avez raison, bah oui, j'avais pas pensé. Et le lendemain, elle aura oublié. Parce qu'elle aura rien vu. Elle aura peut-être compris intellectuellement, mais elle aura rien vu avec les yeux du cœur. Parce que le cœur n'aura pas été lavé. Séparer évangélisation et conversion, c'est faire du travail, je dirais, superficiel. Les problèmes de fond sont toujours des problèmes de conversion du cœur. C'est pas que la personne a mal compris un raisonnement. Ben, des gens qui ne sont pas croyants parce que, tout simplement, ils n'ont pas compris que 2 et 2 font 4. Si l'évangélisation tenait à un discours bien huilé, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé le discours bien huilé et qu'on le resservirait à toutes les émissions possibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais fait comme ça, parce que c'est pas la question de fond. Et donc, au lieu de faire du forcing, au lieu de faire voir, d'essayer de faire voir à la personne quelque chose qu'elle n'est pas en état de voir, il faut essayer donc de parier donc sur ce travail que l'on fait sur soi-même, parce que je ne peux pas changer le cœur de l'autre, mais je peux travailler à la conversion de mon cœur. Donc rester en contact avec notre propre, si je puis dire, appel à la conversion. Et donc essayer de vivre cette conversion. Cette conversion, ce travail sur notre cœur, je vous l'ai dit, c'est essentiellement d'entrer dans les sentiments miséricordieux du cœur de Jésus, au sens où Saint Paul dit en Philippiens 2, 5, et ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. On peut traduire éprouvez ce que le Christ éprouve, sentez ce que le Christ sent. C'est à la fois les sentiments et les pensées. C'est ce que la personne éprouve en profondeur. Vous voyez, le verbe grec ici est très riche. Il couvre à la fois, je dirais, les pensées et les sentiments du cœur. Donc, sentez ce que le Christ sent dans le contact avec l'autre. Le regarder comme le Christ le regarde, l'aimer comme le Christ l'aime, en contemplant Jésus. Comment peut-on rentrer dans les sentiments du Christ si ce n'est pas en fait à regarder Jésus? Et c'est le père Thomas Philippe qui soulignait ça. C'est quand je parle avec quelqu'un et que je pense à ma voisine, par exemple, je vais être distrait. J'écoute plus l'autre. Parce que je pense à quelqu'un d'autre. Mais si je parle avec quelqu'un et que dans mon cœur, je reste en contact avec Jésus, je pense d'abord dans mon cœur à Jésus, mais pas au niveau d'une pensée distincte. C'est simplement que c'est la relation à Jésus qui me fait vivre d'abord. À ce moment-là, ça ne m'éloigne pas, ça me rapproche de l'autre. Et il n'y a qu'avec Jésus que ça marche. Donc, parce que c'est Jésus nous rapproche de l'autre. En se rapprochant de son cœur, on ne peut que se rapprocher des autres. Et à ce moment-là, on a pour eux, donc à force de contempler Jésus, on est contaminé par lui. Vous voyez, ça, la connaissance intérieure de Jésus-Christ nous rend semblables à lui, nous assimile à lui. C'est une connaissance transformante. Et donc, à ce moment-là, on va éprouver... On peut éprouver de la tendresse, une tendresse pure. On peut éprouver une grande souffrance parce qu'on voit que l'autre est enfermé dans une révolte terrible. Ou ce qui fait le plus souffrir le cœur de Jésus, c'est l'orgueil. Mais on peut percevoir dans le regard de Jésus des choses qui sont vraiment très douloureuses pour le cœur du Christ et qu'il devienne pour notre propre cœur. On peut éprouver, toutes les les notes de la charité qui est bienveillante, qui est, je dirais, pleine de respect, enfin, tout ce qui sont les caractéristiques de la charité divine. À ce moment-là, à partir du moment, voyez, où on rentre vraiment dans toute la délicatesse, la profondeur des sentiments du Christ au cœur, on s'efforce de rester de plus en plus proche du cœur de Jésus en même temps qu'on écoute l'autre. C'est pas en même temps d'ailleurs, c'est en écoutant l'autre que ce chemin va se faire, de nous rapprocher du cœur de Jésus. Mais à ce moment-là, l'Esprit-Saint n'aura pas de mal à nous inspirer la parole qu'il faut dire, parce que c'est l'Esprit du Christ. On sera animé déjà par l'Esprit du Christ. Si on se rapproche du cœur de Jésus, on se rapproche évidemment de l'Esprit-Saint qui anime ce cœur. Donc quand Jésus dit, sur le moment, c'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, si on s'applique d'abord à éprouver ce que le Christ éprouve, à faire nôtre les sentiments qui sont les siens, bien, il va de soi que son esprit pourra nous inspirer librement la parole que l'autre a besoin d'entendre. Comment peut-on rentrer dans ces sentiments du cœur du Christ dans l'écoute de l'autre? Quelles sont ces notes distinctes à laquelle on peut reconnaître une charité qui sauve, une charité qui porte? Je repense ici à Romains 15, 7. Saint Paul dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. » Ça, tout le monde est d'accord. Hein. La première chose, c'est d'accueillir l'autre. Mais il y a différentes manières de l'accueillir. On peut l'accueillir humainement parce qu'on trouve qu'il est intéressant, c'est sympathique. Ou on l'accueille parce qu'on a décidé qu'il fallait l'accueillir, que ça fait partie de l'évangélisation. On a des techniques d'accueil. Ou alors on l'accueille comme le Christ l'a accueilli. Là, il n'y a plus de technique, il n'y a plus que la charité. N'empêche pas d'avoir un certain nombre de repères, bon, quant à ce qui peut nous aider à accueillir. Mais on se comprend bien, ici c'est un accueil qui se passe dans le cœur, et ça se fabrique pas. Donc on accueille l'autre comme le Christ l'a accueilli, au fond on est toujours devant la même profondeur et la même exigence, c'est-à-dire qui dit accueillir dit laisser l'autre rentrer dans mon cœur, c'est-à-dire le porter. Donc en fait, c'est un amour qui porte, c'est-à-dire qui supporte. Hein? Bon. Alors, quel est le chemin quel est le chemin qui va nous permettre d'entrer dans cette charité, je dirais ici, à l'intérieur donc du dialogue avec l'autre? Ici, je repense à ce que dit Saint Paul à propos de cette charité. Saint Paul dit à un moment, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. C'est Éphésiens 4, 2. Toute humilité, douceur et patience. Nous avons ici trois vertus qu'on appelle traditionnellement vertus évangéliques. Appelées ainsi parce que c'est les vertus que par excellence le Christ a vécues dans sa passion. Qui sont en certaine manière les trois grandes notes caractéristiques d'une charité qui porte. Charité qui porte, elle est humble, douce et patiente. Alors, je donne un exemple. Galates 6, 1. Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute. Voilà, vous vous rencontrez quelqu'un qui vous dit des choses qui sont vraiment contraires à l'évangile et vous voulez l'évangéliser. Enfin, vous voulez, vous désirez qu'il revienne à la lumière, plus précisément. Vous, les spirituels, c'est-à-dire vous qui êtes animés par l'Esprit du Christ, rétablissez-le, on peut traduire « redressez-le ». Comment ? Galates 6.1, rétablissez-le, redressez-le. Ouais. La mémorisation de l'écriture, c'est très bien. Hein? Ça aide. Hein? Rétablissez-le en esprit de douceur, dit saint Paul. En esprit de douceur. Et notez bien ce qu'il dit juste après. Prenant garde à toi-même. La BJ traduit te surveillant toi-même. Littéralement, prenant garde à toi-même, car tu pourrais bien, toi aussi, être tenté. Voyez ici comme l'esprit de douceur est en même temps, je dirais, inséparable d'un esprit d'humilité. C'est-à-dire, tu vas si tu veux le corriger, corrige-le dans un esprit de douceur, et pour ça, garde conscience que toi-même, tu pourrais bien tomber dans un tel aveuglement, dans un tel péché. On va prendre un exemple de quelqu'un, on va prendre saint Paul, exemple de quelqu'un qui a passé son temps à corriger bien des fidèles, et qui l'a fait en étant dans cet esprit d'humilité, c'est-à-dire en gardant conscience que lui aussi pouvait bien être tenté. Écoutez saint Paul, 1 Corinthiens 15-9, « Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Elle est sur cette parole, 1 Timothée 1-15, « Et digne d'une entière créance, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. » Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui, en vue de la vie éternelle. Alors si nous n'avons jamais été, comme saint Paul, persécuteurs de l'Église, blasphémateurs, nous pouvons très bien, seulement nous pouvons, mais nous devons nous efforcer de penser que sans la grâce de Dieu, sans une grâce particulière de Dieu, bien, nous aurions fait ça, nous aurions été en opposition avec l'Évangile, et que la personne que j'ai en moi, face de moi, qui s'oppose à cet Évangile, bien, je serais bien pire qu'elle. C'est toujours possible de penser ça. Écoutez, Philippiens 2, 3. Juste avant que saint Paul nous dise « Pensez, sentez comme le Christ sent. N'accordez rien à l'esprit de rivalité, ni à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. » Que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi, en réalité, toujours moyen d'y arriver. Une autre expression, en Romains 12, 10, « Par l'amour fraternel, soyez tendres les uns les autres dans l'estime réciproque, rivalisant dans l'estime réciproque. » La BJ traduit « Chacun regardant les autres comme plus méritant. » C'est un exercice qu'on n'arrive pas toujours à faire, parce que des fois on se heurte à des gens... On sent tellement qu'ils sont, qui sont pas dans la charité, qui sont dans une sorte de haine, de position et tout ça. Mais, attention. Nous savons bien, on ne connaît pas le fond des cœurs. Et aussi, on peut toujours se dire que si les personnes avaient reçu les grâces qu'on a reçues, hein, elles en auraient fait meilleur usage que nous. Parce que Dieu ne donne pas à tous les mêmes grâces. Écoutez, Luc 12, 47. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura beaucoup donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. C'est des paroles qui me remplissent de crainte et aussi, j'espère, quelquefois d'humilité. Jésus les adresse en répondant à Pierre qui dit, hein, vous savez bien, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? C'est à ce moment-là qu'il parle de l'intendant fidèle et avisé. Donc, pensons que si, quelque part, vis-à-vis des païens, des non-croyants, nous sommes tous quelque part comme cet intendant, au sens où nous avons la connaissance de l'Évangile. Et comme cet intendant, nous devons nous efforcer de nourrir les âmes, de communiquer Dieu au monde, d'évangéliser. Pensez que si nous sommes les premiers bénéficiaires du salut, c'est en vue de participer à l'œuvre du salut. Premier bénéficiaire de l'Évangile, c'est en vue d'annoncer cet Évangile. Et que le jugement sera plus sévère pour nous. Point de vue du mérite. Je vous avoue que plus je suis ici à Bocolom, plus je vois les gens vivre et tout ça, moi, plus je les trouve plutôt bien. Mais oui, même ces jeunes qui passent la soirée là à faire un peu les... quelquefois les andouilles près de l'église avec leur radio et puis qui se mettent à danser et puis à plaisanter tout le temps comme ça, alors que j'essaye de remettre un peu d'ordre en récitant le chapelet au milieu de tout ça, en faisant des tours de chapelet, mais ça suffit pas. Hein. Je trouve que, bon, on sent bien qu'il y a de la bonté, c'est pas des... ils sont pas méchants. Et je me dis, s'ils connaissaient Jésus dans leur cœur, si on leur avait vraiment donné Jésus, étant enfant, ils seraient sûrement très bons. Trop de compliqué de penser qu'ils sont plus méritants que nous. Enfin, en tout cas, ça coûte pas cher de le penser, dans le doute. On ne peut pas le dire c'est absolument sûr, mais on peut dire c'est très probable. Et ça suffit pour revenir à une attitude d'humilité quand on leur parle. C'est-à-dire, ici, je pose un principe simple, c'est-à-dire rétablissez, quand dit Saint Paul dit aux Galates, si vous, l'un de vous tombe, bon, vous les spirituels, rétablissez-le. Hein, si celui qui est plus faible... qui est encore trop charnel et vous êtes spirituel, alors vous les forts portez le fardeau des faibles, hein, et quand vous voyez un qui est faible dans sa foi, faible dans sa vie spirituelle, bon, ben vous le corrigez, mais attention, en esprit de douceur, on y reviendra peut-être, mais en esprit de douceur, ça suppose, c'est-à-dire sans faire de forcing, ça suppose que vous soyez donc d'abord dans l'humilité. Et ici, moi personnellement, j'ai l'image qui me vient, c'est que pour relever quelqu'un, on est obligé de s'abaisser. Et on peut pas porter quelqu'un si, en étant au-dessus de lui. On peut le porter qu'en se mettant en dessous. Et c'est bien ce qu'a fait Jésus, qui a accepté que le Père l'identifie au péché. Il a été fait péché. Il est descendu dans l'abîme de la misère humaine. On ne descendra jamais plus bas que lui. Et donc c'est du plus bas que Jésus nous porte et nous sauve. Si nous voulons œuvrer à son œuvre de salut, il faut nous-mêmes nous abaisser comme lui s'est abaissé dans le mystère de sa passion, qui est d'abord un mystère d'abaissement. Et plus nous nous abaissons, comme nous le pouvons donc, en estimant les autres plus méritants, en confessant notre propre infidélité à tant de grâces que nous avons reçues et dont nous avons finalement fait très peu de choses, on a quelquefois l'impression finalement on n'a fait que plus ou moins résister à la grâce de Dieu dans notre vie, au lieu de l'accueillir pleinement. Eh bien, si nous restons en contact avec notre misère profonde, eh bien, nous suivons Jésus sur ce chemin d'abaissement, d'humilité face aux autres, et à ce moment-là, on peut être miséricordieux. On peut avoir une vraie miséricorde qui est celle de la charité divine, et pas une sorte de pitié artificielle. On se dit, oui, ah, le pauvre, oui, il n'a pas de chance, il n'a pas eu d'éducation chrétienne comme moi j'ai eu, ah bon, bah oui, je vais l'aider, je vais lui expliquer. Non, c'est de la pitié humaine et de la bonne volonté et de bonne intention humaine, mais c'est pas encore ça, communier à la passion de Jésus. Il faut descendre plus dans la profondeur. Suivre un vrai chemin d'abaissement, un vrai chemin d'humilité intérieure, pour être réellement en dessous. À ce moment-là, on est en dessous, comme Jésus a été en dessous de ses apôtres. Quand il a lavé les pieds, il était bien en dessous d'eux. Moi, j'ai lavé les pieds pour la première fois comme prêtre cette année, parce qu'habituellement, c'est réservé au curé. Et je me suis aperçu qu'en lavant les pieds, on est bien en dessous. Pas moyen de laver les pieds si on veut se tenir tout droit et dominer la situation. Et donc, rappelons-nous le principe énoncé par saint Jean de la Croix, la charité, la vraie charité, la charité divine en nous est proportionnée à l'humilité. Ni plus ni moins. Et rappelons-nous à ce sujet-là, dans notre dialogue avec les autres face à leurs multiples erreurs, si l'un des vôtres est pris en flagrant délit d'erreur, le multiple égarement, de penser que son aveuglement, il est peu de choses par rapport au nôtre, ou du moins à notre aveuglement potentiel, et à toutes nos résistances à la lumière divine. Et dans ces dispositions-là de notre cœur, Nous saurons, voyez, par cet exercice d'humilité, précisément, laver l'autre, aider l'autre à se laver de son orgueil, qui est sa paille à lui. Nous aurons enlevé la poutre de notre orgueil et nous pourrons l'aider comme ça, je dirais, à être débarrassé de la paille de son orgueil à lui. Et à ce moment-là, il verra clair pour entendre l'Évangile. Le problème n'est jamais, vous voyez, dans trouver le chemin, les mots, l'expression qui fait qu'il va comprendre que ceci, cela. Non, ne perdons pas notre temps, unissons-nous au cœur de Jésus, et puis c'est tout, j'ai envie de dire. Le reste se fait naturellement. À partir du moment où on est enraciné dans le mystère de la rédemption, on a la racine de la rédemption qui est là. Et ensuite, les choses se déploient, le salut et la victoire, elle est acquise. Dès que nous sommes réellement dans les sentiments du Christ, en suivant un chemin donc qui est d'abord un chemin d'humilité et qui doit ensuite donc nous permettre d'agir avec douceur et patience, ce que nous verrons peut-être la prochaine fois. Pour terminer cet enseignement, qui donc se termine pendant le mois de juin, qui est le mois du cœur de Jésus.